Mais bonjour à tous et mais comment il est exigeant hein. Bon, mais bonjour à tous et merci d'être présents ce soir à l'Institut d'Astrophysique. Alors pourquoi cette réunion? Il se trouvait que je rappelais à certains que j'ai dirigé cette maison de 1978 à 1988 et à l'époque j'organisais des conférences de ce genre et le directeur actuel et donc m'a demandé en début d'année, il m'a dit ça marche, c'était de continuer. Donc c'est la raison pour laquelle dans un instant je vais vous présenter un de mes meilleurs amis, le grand architecte Denis Lamigne, que je remercie vivement de nous faire le grand honneur d'être là ce soir pour nous parler de la ville du futur. Alors j'ai promis, je n'organise que des conférences les mois impairs. Les mois pairs, c'est un autre collègue qui va inviter le 18 octobre Madame Stéphanie Ruffier, qui est professeure de philosophie des sciences à l'École normale supérieure, qui est maintenant directrice de l'Office français d'intégrité scientifique et qui parlera des nouveaux enjeux pour le monde de la recherche. Hello, bonjour. Alors, je vais dire maintenant, je vais chanter tes louanges. Donc, quand on parle de Denis Lamigne, il y a un synonyme, c'est le futuroscope. Mais ton œuvre ne se limite pas uniquement à cette grande chose, puisque tu as accompli d'énormes installations en Europe, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en Chine. Alors, en France, le futuroscope, tu t'es pas contenté de faire le centre, mais tu as construit la Technopole, tu as aussi construit la gare TGV. Enfin, donc, lorsque vous allez au Futuroscope, en fait, vous êtes dans le monde de Denis Lamigne. Tu as aussi réalisé en France l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon, l'Institut des sciences de Vendée. Alors, j'ai des notes parce qu'il en a écrit, bien qu'on se connaisse depuis un petit moment, je suis obligé de lire mes notes parce qu'il y en a tellement. Voilà. Ensuite, ce qui nous rapproche, c'est que tu as réalisé le musée scientifique de Seattle, le musée des sciences de Thessalonique. Tu as conçu, développé un certain nombre de villes en Chine, comme Wuhan, Chengdu, Ningbo et Pékin. Et puis, plus récemment, il faut que je tourne ma feuille, tu as fait, bien évidemment, le centre culturel, mais aussi la gare maritime de Shenzhen. J'espère que tu vas nous la montrer parce qu'elle est tellement belle. Et puis le musée d'urbanisme et le palais des congrès de Wuhan. Et puis tu as des projets également en Angola et au Portugal. Alors tu as obtenu deux prix, un prix Apollo, tu es le premier étranger à obtenir ce prix prestigieux chinois, prix Apollo en 2007 et en 2019. Le premier prix du bâtiment écologique du sud de la Chine. Et puis tu es le représentant d'un mouvement dont tu vas sûrement parler, le néo-futurisme. Donc je ne dis pas, je te laisse le soin de nous dire ce qu'il s'agit. Alors, moi j'ai eu la chance de faire des choses avec toi. On a fait un forum de créativité à Shenzhen en 2014. Et on a écrit un livre ensemble, Le moment de mosaïque. Un succès de librairie fabuleux, on a dû vendre 350 exemplaires. Et puis, nous sommes tous les deux citoyens d'honneur de la ville de la route de la soie de Nuang. Voilà, et bien maintenant, la parole est à toi. Et merci encore.
Merci, cher Jean. Je disais tout à l'heure que je faisais comme Balou, vous savez, dans le livre de la jungle, qui faisait semblant d'être mort et dans le coma, alors qu'en fait, il entendait tout le panégyrique qu'on faisait de lui et il ne voulait pas se réveiller. Alors, je suis heureux d'être avec vous ce soir Et je trouve que les astrophysiciens ont de la chance. Ils ont un métier qui fait rêver et auquel personne ne comprend rien. Et moi, j'ai un métier qui fait rêver, mais où tout le monde croit qu'il comprend tout. Ce qui crée une difficulté, et c'est de là que viennent les difficultés de la ville actuelle. Je vais vous donc vous raconter la naissance de la ville, pourquoi la ville, comment la ville est née et pourquoi elle rencontre dans ses développements certaines difficultés. Alors, pour illustrer mon propos, d'abord, pourquoi je vous dis que tout le monde croit tout comprendre ? Eh bien, chacun a dans la ville une image particulière par rapport à son dada, à lui, à ce qui l'obsède. Il y a des gens, par exemple, qui sont pris dans les embouteillages, et pour eux, une ville réussie, c'est une ville où la voiture circule bien. Bon, c'est comme ça. Ce qui est difficile, parce que, par exemple, une ville comme Houston est une ville dont plus de 80% de la surface est dédiée à l'automobile. C'est pas rien. 80%, c'est-à-dire le reste, c'est les espaces verts ou ce qu'il en reste, ou des immeubles ou des constructions. Or, c'est la ville la plus embouteillée, une des villes les plus embouteillées du monde. Ce qui veut dire que quand on cherche à résoudre le problème de l'automobile, en fait, on l'accentue. C'est-à-dire que le remède amplifie le mal. Car l'arrivée de l'automobile dans les années 1900-1910 a contribué à distendre le tissu urbain et en cela même à rendre de plus en plus nécessaire l'automobile qui, du coup, encombre. Alors, j'ai rencontré, en visitant d'ailleurs le Futuroscope avec un ami chinois, là je salue Meng Wen, c'était le maire de Chengdu qui venait visiter le Futuroscope. Il venait d'avoir des inondations terribles. Et à ce moment-là, un déluge épouvantable arrive sur le Futuroscope où toutes les canalisations étaient... Et il me dit, pour moi, une ville réussie, c'est une ville qui a des canalisations suffisamment grandes pour évacuer les eaux de pluie. C'était son truc. Voilà, c'était ça une ville réussie. Alors on peut imaginer, j'avais rencontré un Suisse qui m'a dit, pour moi, une ville réussie, Paris c'est très sale, c'est une ville qui est propre. Bon, alors voilà. Un autre va dire, une ville réussie, c'est une ville verte, il faut de la végétation, il faut des arbres. Alors, c'est son truc, il veut des arbres. Attention, hein, c'est sans vouloir paraphraser Alphonse Allais, la ville à la campagne, il n'y a rien de pire qu'une ville qui aurait trop de végétation, parce que là, ça rendrait à nouveau les distances trop grandes. Et donc, attention, il faut mesurer les espaces verts. Il ne faut pas en mettre trop, parce que si vous en mettez trop, il faut en mettre suffisamment et pas trop. Alors ensuite, d'autres auront le dada de la sécurité, d'autres de la pollution. J'ai même rencontré une personne, c'était il y a une quinzaine d'années, qui venait me voir pour faire des maisons pour les chats. Et qui m'a dit une ville réussie, c'est une ville dans laquelle les chats sont heureux. Eh bien, ça existe. Et au début de ma carrière, mais ça, ce n'est pas pour la ville, c'est pour l'architecture, un de mes tout premiers clients était ingénieur, et il m'avait dit, de toute façon, les architectes, ils sont un peu sots, parce qu'il y a toujours des linéaires de plomberie. Une maison, ça doit se faire autour des toilettes. Parce que, comme ça, la cuisine, les salles de bain, etc., ça limite la plomberie. C'était son truc. Alors, il faisait fi de l'orientation, de la sonorisation, de l'agrément, etc. Tout ça pour vous dire que chacun voit la ville avec son angle de vue. Or, la ville, c'est beaucoup plus que ça. La ville, ce qui la caractérise, c'est son âme. C'est quelle est l'âme du ville, quel est son caractère. Je dis souvent que pour mesurer une ville, on peut la mesurer à son nombre d'habitants, à sa surface, à son PIB. Eh bien non, une ville, ça se mesure au nombre d'émotions que vous avez en la parcourant. Vous marchez, et soit votre encéphalogramme est plat parce que vous longez un long mur ou un immeuble où il n'y a rien, soit au contraire, vous avez une multitude d'interpellations de qualité qui sont soit des boutiques, une sculpture, une perspective, un beau détail d'ornement, une échelle agréable, etc. Et donc, une ville, ça se calcule, ça s'appréhende, non pas de manière fonctionnelle, mais ça s'appréhende avec le cœur et avec l'émotion. Alors, je pense à ce que disait Thucydide, je vais reprendre une de ses citations, Thucydide qui est connu parce que on en parle maintenant souvent, c'est lui qui avait parlé sur la guerre entre Sparte et Athènes, mais en fait il avait dit, ce sont les hommes, je la lis là, ce sont les hommes qui constituent la ville et non pas les seuls murs ou les navires sans passagers. Attention, Thucydide, c'est 450 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est dire que ce que l'on dit là est quelque chose qui était un souci bien avant. Alors, revenons aux origines. Pourquoi la ville? Parce que ça vous paraît évident, mais il faut savoir que la ville n'est apparue qu'il y a 12 000 ans, c'est-à-dire à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ, avant l'homme était nomade. Ce qui veut dire, dit autrement, que 98 ou 99% de la vie de l'homme s'est passée sans la ville. C'est assez intéressant de voir que ce qui pour nous, sachant que bientôt presque 80% de la population vivra dans une ville à l'horizon 2050, qu'en Chine, il y a plus de 250 villes de plus d'un million d'habitants, ce qui est assez extraordinaire. Mais donc, tout ça est une notion très récente dans l'histoire de l'humanité. 12 000 ans, c'était encore des nomades. Alors, où vivait l'homme? L'homme vivait dans les arbres, principalement. Il vivait dans des cavernes, et ils vivaient dans des huttes. C'était des... Et là, je vais appeler mon ami Georges Chapoutier, notre ami Georges Chapoutier, à la fois philosophe et biologiste, avec qui nous avons écrit un livre avec Jean Audouze, et sur la complexité. Il développe le thème, et vous allez voir que ça correspond à la ville. Il développe le thème qui est que au départ, il y a des éléments identiques juxtaposés qui petit à petit s'agglomèrent, se différencient, se spécialisent et ensuite arrive l'entropie, c'est-à-dire qu'un système devient de plus en plus complexe et meurt. Et oui, la ville meurt. Je vous parlerai tout à l'heure de Babylone. Babylone, si on avait dit à un habitant de Babylone que sa ville allait mourir, il ne vous aurait pas cru, comme si je vous disais aujourd'hui que Paris va mourir. C'est tout à fait extraordinaire, mais les civilisations meurent. Donc, comment naît la ville? Alors, à la réponse de pourquoi, je vais quand même citer Socrate, c'est... Les hommes viennent en ville pour vivre ensemble et ils y restent pour être heureux. C'est amusant, la définition de la ville de Socrate. Car en fait, la ville, ce ne sont pas les murs, ce ne sont pas ce que vous voyez, mais ce sont les hommes. Et donc, je vous propose d'avoir une lecture de la ville en creux et non pas en plein. Parce que si vous analysez la ville, vous allez vous dire, bon, ben d'accord, mais où sont les routes, enfin, où sont les rues, je veux dire, où sont les constructions, qu'est-ce que je vois? Eh bien non. La ville, d'abord, ce sont les chemins qui y mènent. La ville est née par des nomades qui se réunissaient à des époques, à des saisons, suivant la lune, le solstice, je ne sais pas, et se réunissaient pour échanger des langages, des outils, des traditions, des femmes, je la cite en quatrième, et en fait, ils échangeaient aussi des croyances. Et le premier bâtiment construit est le temple, c'est-à-dire un lieu de culte. Donc, au départ, ce sont des chemins qui y mènent. C'est peut-être, si vous le voulez bien, la seule idée que je vous propose de retenir, la seule idée, c'est que avant la ville, il y a les chemins qui mènent à un endroit. Et c'est pour ça que les villes nouvelles ont autant de mal à démarrer. Parce qu'une ville, parce que les décideurs ne le savent pas, ou n'y peuvent rien, même s'ils le savent, et une ville nouvelle n'a pas encore les chemins. Celle qui est décrétée n'a pas les chemins. La ville ancienne se faisait là où les hommes se réunissaient. Donc avant la ville, il y a le chemin. Une ville, en fait, a autour d'elle une étoile radioconcentrique de chemin qui y mène. Une ville, normalement, se fait au point d'eau, c'est-à-dire en général un fleuve. Ça peut être un lac, mais en général un fleuve. Et si c'est un fleuve ou une rivière, en amont, il faut du bois, parce que c'est le bois flotté qui va constituer la ville. Et sur le site même, l'idéal, c'est une carrière. Je suis en train de vous décrire Paris, là. C'est comme ça que se fait. Les fleuves étaient les autoroutes d'hier. Les matériaux, il faut les transporter avec le minimum d'énergie. Ensuite arrive le site défensif, si ça peut être une île. Je continue à décrire Paris, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être une île, ou en tout cas de dévier les cours d'eau pour en faire des douves qui la protègent. Et aussi bien pour des raisons défensives que pour des raisons de densité, de nécessité de banque de transport, la ville est dense, elle est très concentrée. Tout simplement parce que s'il y a un animal, c'est-à-dire un âne ou un cheval pour aller au champ, eh bien c'est l'homme qui le prend pour travailler pendant la journée, et les femmes et les enfants qui restent en ville n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer, donc la ville doit être concentrée. C'est la densité. Mais j'y reviendrai tout à l'heure de la densité. Donc, la ville doit attirer et rayonner, mais qu'on s'entende bien, elle ne rayonne pas loin. À l'époque, les villes rayonnaient sur 10 km, 20 km, elles rayonnaient peu. Et elles avaient ainsi une identité forte, parce que ça dépendait des matériaux qu'il y avait, des usages, et donc les villes avaient une forte personnalité. Et là, on peut penser à Darwin qui disait que l'isolement favorisait le développement d'espèces nouvelles. Eh bien, le relatif isolement des villes d'hier favorisait une grande personnalité. Maintenant, on le voit bien, avec le développement exponentiel de la connaissance et des communications, les villes se ressemblent, parce que tout le monde fait la même chose. Et de plus en plus, que vous soyez dans une ville ou une autre, les bâtiments se ressemblent, sauf bien sûr les cœurs de ville que l'on protège, mais sinon, les villes qui se développent ont tendance à se ressembler. Alors, plusieurs domaines de la ville qui sont assez intéressants à observer. La densité, dont j'ai dit un mot. La densité, alors première idée, avant même de parler de la densité, il faut savoir que du point de vue pollution de la planète, préservation de la planète, et notamment CO2, la ville est une grande chance. Jean Redouze le sait bien, c'est un de mes dadas, mais la ville est une grande chance pour la pollution. Car évidemment, la ville est une grande pollueuse, mais rapportée au même niveau de vie, si chacun vivait de manière éparse sur le territoire, ça polluerait beaucoup plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un rural, à niveau de vie égal, pollue 7 à 8 fois plus qu'un citadin. Ça ne se sait pas. Mais attention au télétravail, attention au retour à la campagne. Il y a un coefficient 7 à 8 qu'il faudra bien garder à niveau de vie égal. Donc, première idée sur la ville. Deuxième idée, la densité. La densité est souhaitable, éminemment souhaitable. Densité ne veut pas dire promiscuité. Densité mal faite est très désagréable, mais densité bien faite, mais on vient pour ça, on vient pour voir les autres. On vient pour avoir des liaisons rapides. On vient pour avoir tout à portée de main. Donc la densité est souhaitable, contrairement à ce que vous allez voir dans les journaux ou dans la vie spontanée qu'on pourrait avoir. L'idéal, c'est la maison de notaire avec un jardin au centre du village. Mais tout le monde ne peut pas être notaire avec un grand jardin au centre du village, parce que là, à nouveau, vous distendez le tissu urbain et vous n'avez plus une ville. Vous avez un début de banlieue, un début, donc une nécessité de voiture, donc embouteillage, donc on revient au problème précédent. Même chose sur l'espace vert dont je parlais tout à l'heure. Il est évident que si vous mettez non pas un bois de Boulogne, mais 50 bois de Boulogne dans Paris, vous n'avez plus de Paris. Et quand les maires se battent sur les espaces verts et veulent verdir la ville, attention, pas n'importe comment, ils comptent les arbres en disant « Ouais, moi je vais planter 100 000 arbres ou 200 000 arbres. Oh » Attention, attention. Un arbre bien placé est beaucoup plus intéressant qu'un hectare d'espace vert mal placé. Moi, si je vous mets un hectare d'espace vert au milieu d'un échangeur, ça n'a aucun intérêt, vous n'allez jamais y aller. Mais ceux qui connaissent la Grèce, une place grecque avec un arbre sur la place qui fait de l'ombre, un bel arbre, ah, c'est magnifique. Donc, attention de ne pas tomber dans la dérive quantitative de l'espace vert. Il faut être dans la dérive qualitative, comme toute la vie d'ailleurs. Toute la vie, c'est non pas le nombre, mais c'est la qualité, évidemment, évidemment. Les voitures, j'en ai parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. La taille de la ville est importante. Chaque ville a une taille idéale, optimale. Aristote se posait la question, il se dit, mais à partir de quelle taille la ville perdait son âme. Et Paris, par exemple, heureusement, est protégé par ses anciennes murailles, ses boulevards des Maréchaux et maintenant son périphérique. Heureusement. Et il faut que ça se développe par ailleurs. Et ce qui se développe ne peut pas se déverser tous les matins dans Paris. Il faut que ce qui se développe aient leur cœur d'activité propre. Ben sinon, Paris ne peut pas absorber. Imaginons qu'on passe de 15 millions de la conurbation, qu'on passe à 50 millions, par exemple. Ben Paris, je vais faire de 50 millions de personnes qui viendraient. Donc, en fait, il y a... Je parle de Paris, mais je pourrais le parler de Pékin, de Shanghai ou de New York. Hein. Donc, une ville a une taille raisonnable. Et... il faut donc la trouver et essayer de ne pas la dépasser. Et ensuite, essayer de nourrir d'autres villes. Ce que cherchent d'ailleurs à faire les Chinois, ils cherchent à éviter que tout le monde aille sur les villes du littoral qui ont des forces, parce que la force d'attraction d'une ville est gigantesque, elle est énorme. Alors, on n'aime pas peut-être la ville, on la critique, mais enfin tout le monde veut y être. Ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des emplois, c'est aussi parce qu'on s'y amuse, parce qu'il y a la diversité, parce qu'on peut avoir des phénomènes culturels qu'on ne peut pas avoir si on y est dispersé. Un mot sur l'âme de la ville. Alors, je ne vais pas insister parce que chacun sait que chaque ville a sa signature, a sa personnalité. Mais ça avait commencé, j'ai envie de vous citer Babylone, Babylone qui a disparu. Babylone qui a disparu à cause de sa nappe phréatique qui montait et qui, du coup, s'est dissoute. Oh, c'est quand même... Mais à l'époque, c'était la plus grande ville, quand même. C'est quand même extraordinaire. Et qui a été construite par Nabucodonosor II. Et comme il avait épousé une femme qui était mède, et donc qui vivait dans la montagne, il a reconstitué une des sortes de montagnes dans sa ville, d'où les jardins de Babylone. Il avait donc créé une âme, par amour certes, mais il a créé une âme. Donc en fait, une ville a besoin d'un grain de folie. Elle ne peut pas être que fonctionnelle. Et là, je vais vous parler de Xi'an, qui est la ville nouvelle de Pékin, qui maintenant est quasiment abandonnée. Mais Xi'an, pas Xi'an, la ville des soldats a disparu, mais je parle de la ville nouvelle à côté de Pékin. Et donc les responsables avaient demandé de réfléchir à cette ville nouvelle. Et j'y étais allé, il avait commencé à peu près 2 ans avant. Et en fait, c'était une ville totalement numérique. Et c'était une ville dans laquelle les taxis étaient sans chauffeur, la boutique, vous y alliez, il n'y avait personne dedans, c'était numérique. Le travail était évidemment en télétravail et l'hôtel, il n'y avait personne à l'accueil, il fallait juste badger, etc. C'était une ville où on ne rencontrait personne, donc tout le monde était neurasthénique. Et c'était une ville qui n'a pas fonctionné. Je ne sais pas s'ils vont la prolonger ou la faire redémarrer. Tout ça pour vous dire que la numérisation qui est en cours peut-être tout à fait contre-productif sur l'intérêt personnel que nous avons d'être ensemble. Il faut être vigilant de garder les contacts. Même chose pour... Mais vous allez la voir, je vais vous montrer quelques images. J'ai initié la ville nouvelle à côté d'Abu Dhabi, qui s'appelle Masdar, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Et là aussi, mais je vous en parlerai quand on verra l'image. Voilà. Et une autre idée, c'est le côté mythique de la ville. Je voudrais en dire un mot avant de passer aux images. Et qui était, vous savez, les villes se reconstruisent sur la ville, un peu comme la cathédrale au départ c'est un lieu de culte, puis ensuite ça va être une chapelle, puis ensuite ça va être une église, puis ensuite une cathédrale du fond des âges, puis ensuite une cathédrale gothique, etc. On construit, une ville se reconstruit sur elle-même, c'est comme ça. Eh bien, ça relie à ce que je vous disais tout à l'heure sur les chemins. Ce qui compte, c'est l'usage que l'on a à aller au même endroit. En fait, nous avons l'esprit radioconcentrique. Nous voulons revenir. On ne peut pas faire quelque chose sur un endroit, ou alors ça devient la naissance de quelque chose de nouveau, d'énorme. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'astrophysiciens, en tout cas peut-être certains nous écouteront, un mot sur la ville, sur une exoplanète, juste pour être dans le thème du lieu. Mon père était, il n'était pas astrophysicien, mais il avait écrit des livres sur l'astrophysique et j'ai été bercé avec l'idée de, d'autres civilisations. Et je pense que ce sera très difficile, le concept de ville sur une autre planète. Pour cette raison-là, parce que ce sera très difficile, si jamais le climat, l'atmosphère est hostile, ce sera très, très difficile d'envisager les chemins. Donc, ce sera très longtemps des bases de survie. Et on a fait un petit livre, grâce à toi, Jean, où j'explique ce que pourrait être une ville sur une autre planète. Alors, est-ce que c'est une base touristique ? À ce moment-là, ce n'est pas vraiment une ville, ça devient plus une sorte de camp, une sorte d'hôtellerie pour quelques jours. Est-ce que c'est une ville scientifique où on fait des expériences ? À ce moment-là, ce sera plus une cité ouvrière, entre guillemets, ou en tout cas laborieuse. Est-ce que c'est une ville où on garderait quelques hommes en réserve au cas où la Terre viendrait à avoir des misères et à exploser, ou avoir une épidémie, un peu comme le phylloxéra pour le vin et avec les plans du Nouveau Monde qui arrivent. Peut-être que ce sera des hommes du Nouveau Monde qui reviendraient sur Terre. Tout dépend de quel type d'implantation, on voudrait faire. Mais je pense qu'il ne faut pas trop rêver en tout cas pour l'instant, avec les moyens actuels, il ne faut pas trop rêver d'une ville telle que nous la concevons sur une autre planète. Bon, mais ce serait génial. Et bien, je vous propose de regarder quelques images. Parce que j'ai cité Socrate tout à l'heure, mais il disait que l'âme ne pense pas sans images. Et donc, comme vous avez une âme, vous pensez avec des images. Je vais donc vous montrer des images. Alors, je crois qu'il suffit d'appuyer là pour... Alors, voilà la première image. Ça, c'est un hiéroglyphe que l'on a trouvé, je crois que c'est dans la ville d'Ur, qui est une des plus anciennes villes. C'est la plus ancienne représentation de la ville que l'on ait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors du cercle, avec les remparts, la ville est représentée par les métiers qu'il y a à l'intérieur. Donc, en fait, ce qui compte, je le rappelle, ce sont les hommes. N'oubliez pas, si vous devez retenir une chose, une seule chose, c'est les chemins et les hommes, avant les pierres qui la constituent. Donc quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je m'amuse à... Je ne reste pas longtemps, mais si on veut voir les chemins à Radio-Constant, voilà. Un mot, enfin, une image de la ville du Futuroscope. Donc, vous voyez qu'elle est conçue de manière aussi radioconcentrique. C'est-à-dire, d'abord, elle a été voulue par le président Monory. On avait hésité entre beaucoup de terrains, et entre la voie ferrée et l'autoroute. On nous proposait beaucoup de terrains autour, dans le département de la Vienne. Eh bien, il a été choisi intelligemment par le président le terrain qui était desservi, qui avait les moyens de transport et qui étaient visibles de l'autoroute, visibles de la voie ferrée, visibles de la nationale. C'était intelligent. Il n'avait pas de formation urbaniste particulière, mais c'était intelligent. Ça, c'est mon premier croquis du dessin du parc à thème lui-même, et qui était une oreille et qui est l'homme à l'écoute de l'univers. Ça, c'est l'enfance qui jouait. Et on voit le début du triptyque qui était on va allumer les feux de la rampe et attirer par le parc à thème, sur le thème du futur, mais c'est un outil d'aménagement du territoire et on va développer une aire d'activité autour, que l'on voit qui naît à gauche, et une aire de formation. Et donc, on va attirer l'intelligence, enfin, on a essayé d'attirer l'intelligence dans le département de la Vienne, qui à l'époque était un département rural. Quand on disait « nous voulons faire un parc », les habitants de la Vienne ou les élus de la Vienne me disaient « mais pourquoi on a suffisamment d'arbres comme ça ?» Le concept n'existait pas. Il n'est apparu qu'au départ avec le Futuroscope et avec Disney, et ensuite avec Astérix et d'autres. Mais le parc lui-même, pour nous, n'était qu'un prétexte, un petit peu comme un terrain de golf où vous mettez un golf et ensuite le promoteur va vendre des villas autour. Eh bien, nous, on a fait un parc à thème sur le thème de l'intelligence et de l'image. C'était un parc où on devait apprendre des choses. Et on se disait, comme ça, les gens vont venir. Et de fait, dans les dîners en ville à Poitiers, avant le Futuroscope, les étudiants ne comptaient pas rester là. Et après le Futuroscope, ils se disaient, ah oui, mais nous... il se passe quelque chose, on va s'installer là, on va monter notre activité là. Donc c'est ça l'intelligence. Il faut, et l'outil de l'aménagement du territoire. Et il faut voir que quand on avait fait l'étude de marché, tout à fait au départ, l'étude de marché nous disait un jour, vous aurez peut-être 150 ou 200 000 visiteurs. Et alors le président Monory m'avait dit, ouais, c'est pas assez, dites-leur de mettre 400 000. Parce que c'est nous qui payons, alors l'étude de marché, on va leur faire dire ce qu'on veut. Et en fait, on en a eu 2 800 000 quelques années après. Car une étude de marché, les gens ne peuvent pas imaginer ce dont ils ont envie. Une étude de marché se conçoit sur un produit mature, mais pas sur un produit innovant ou un nouveau produit. Car vous savez la différence entre créer et innover. Il y a une grande différence. Cette idée de séparer les deux est venue avec François Dalle, avec lequel on a fait l'Institut international de la prospective sur le Futuroscope. Et il me disait le slogan de L'Oréal, c'est « saisir ce qui commence ». Mais ça, c'est l'innovation, ce n'est pas de la création. La création, c'est partir de rien et de faire quelque chose. L'innovation, c'est de regarder ce qui commence et de le développer. C'est deux choses différentes. Alors, au Futuroscope, on a eu la phase création et ensuite, il y a eu, évidemment, la phase innovante où on a développé ce qui était construit. Donc voilà, on le voit qui se développe. Je ne reste pas longtemps parce que peut-être... Moi, ça m'amuserait de savoir. Ceux qui sont allés au Futuroscope, ça vous ennuie de lever le doigt? Ah oui, c'est pas mal. Ça fait plus de 50%. Un peu plus de 50%. Ouais. Pas mal. Bon, ça fait aussi une réserve de clientèle, hein, une réserve de visiteurs. Hein. Voilà. Il y avait à l'époque, dans une recherche de notoriété, le Futuroscope faisait partie des 10 marques spontanées, ce qui est peut-être pas tout à fait le cas maintenant, mais faisait partie des 10 marques spontanées citées, un peu comme Coca-Cola, Peugeot ou L'Oréal d'ailleurs. Le Futuroscope en faisait partie. Alors voilà les bâtiments. Voilà les premiers bâtiments. Un mot sur le néo-futurisme. Quand j'ai commencé à réfléchir sur le Futuroscope, qui est une sorte de cité nouvelle, de ville nouvelle, hein, on parle de la ville du futur, le challenge était donc d'exprimer le futur. C'est très difficile, parce que de parler du passé, c'est déjà plus pratique. De faire un bâtiment classique ou contemporain, c'est assez facile. Mais d'exprimer le futur, ce n'est pas facile. Et donc ces bâtiments-là ont entre 35 et 40 ans. On va fêter les 40 ans du Futuroscope dans l'année prochaine. Et donc on a réfléchi, etc. Et donc j'ai voulu être complètement en rupture. Et le premier bâtiment, c'est celui qu'on voit à droite, au fond. L'idée, c'est un lever de soleil sur un monde en mutation, donc un horizon qui bascule. Et ensuite, des bâtiments, j'ai repris, du coup ça m'a donné l'idée de formes géométriques, donc le prisme et la sphère, les trois dimensions de l'espace et la sphère qui représente le temps. Les molécules, l'ordonnancement des molécules, les cristaux, etc. Ça a donné naissance, ça a participé au renouveau du mouvement néo-futuriste en architecture. Et ces bâtiments ont fait la une de pratiquement tous les journaux internationaux d'architecture, ce qui fait qu'ils ont été énormément imités. Et pour vous amuser, c'est de dire que c'est pas, ils n'ont pas été imités 10 fois, 100 fois, mais il y a plusieurs milliers de bâtiments en forme de cristaux dans le monde. Et alors c'est assez amusant parce que quand j'avais été par exemple dans les Émirats, ils m'avaient dit « Ah oui, mais ça, je leur montrais ce que j'avais fait ». Et alors l'émir d'Abu Dhabi me dit « Ah oui, mais ça, je connais, vous avez imité le truc ». J'ai dit « Mais c'est pas imité, c'est le mien ». Alors, c'est assez amusant. Donc, au début, ça m'énervait, d'autant plus qu'il y a eu, il y avait en Chine un futuroscope qui a émergé. Et puis finalement, j'ai fait mienne la phrase de Voltaire qui disait que la copie est la forme ultime de la flatterie. Alors, au lieu de m'énerver, je me suis dit, dans le fond, finalement, je suis plutôt content. Chacun joue sa petite musique dans la vie. J'avais joué la mienne. Donc, voilà les bâtiments et donc le renouveau du mouvement néo-futuriste. Alors, qu'est-ce que c'est que le néo-futurisme? Eh bien, le néo-futurisme, par rapport au futurisme, c'est comment se servir, utiliser, jouir des avancées technologiques, de tous les moyens que la science et les avancées nous donnent, mais tout en restant à l'échelle de l'homme. Ce qui n'est pas le cas du mouvement futuriste. Le mouvement futuriste est un mouvement qui dépasse et de loin, et autant que faire se peut, l'échelle de l'homme. Donc voilà. Alors là, je vais aller un peu plus vite. Est-ce que je dépasse mon temps? C'est vrai? D'accord. Donc je vais aller un peu plus vite. Je vais donc faire défiler plusieurs œuvres. Ça, c'est le Musée des sciences de Seattle, financé par Boeing. Le musée des sciences de Thessalonique, si je montre les musées des sciences, c'est un clin d'œil aux scientifiques qui nous regarderont. Ça, c'est une ancienne, un ancien terrain qui était une usine pour produire de l'électricité qui fonctionnait au charbon. Et j'avais proposé donc alors j'étais parti du carbone, du charbon et le carbone, et donc on voit ici des éléments de carbone qui sont, je reprends mon thème géométrique, et ici un projet. Il n'a pas été réalisé malheureusement, Le terrain existe toujours, donc peut-être qu'il se réalisera un jour. La ville de Masdar, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, à Abu Dhabi. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue avec un ami qui s'appelle Ziyad Tassabeji, qui est un ami libanais qui vivait à Dubaï et qui m'a dit, Denis, avec ton architecture, etc., il faudrait imaginer une ville du futur près d'Abu Dhabi. Et j'avais dit, mais dans le fond, proposons-leur une ville zéro énergie, comme si c'était l'après-pétrole. C'était un coup de poker qu'on lançait. On disait peut-être que l'émir qui vit du pétrole ne va pas tellement aimer mon idée de se passer. Et pas du tout, il a été absolument emballé. Et il m'a commandé donc l'étude d'une ville nouvelle, donc totalement écologique, totalement sans énergie et sans CO2. J'ai proposé la forme d'une dune et on voit au centre, au milieu de l'image, je ne sais pas si le... Ah non, je ne sais pas si on voit le... Ah oui, je ne sais pas si vous voyez la flèche. Et ici, c'est un four solaire qui produit de l'énergie. Et là, c'est une architecture qui reprend aussi des formes géométriques avec de la lave en fusion, etc. Donc, je vais vous montrer quelques images. Donc, voilà, c'est une université sur le bout. Et donc, voilà la forme de la ville. Voilà la maquette. Et là, il faut savoir que l'architecture est un art impur, car contrairement à un peintre ou un sculpteur, il est tributaire de la géopolitique. Et la géopolitique, c'est dépend aussi de la versatilité du maître d'ouvrage. Il faut savoir que Abu Dhabi est une chasse gardée des anglo-saxons. Et quand le projet a pris sa dimension et que d'un simple concept commandé à un architecte français, on s'est aperçu que des milliards étaient déversés sur ce projet, il y a eu un lobbying des anglo-saxons qui m'ont volé mon projet. Et donc ça a été repris par un architecte anglais, un architecte connu, qui s'appelle Foster, un architecte de talent d'ailleurs, mais qui a fait, donc comme il me l'a volé, je vais le critiquer, pardonnez-moi, mais qui a fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire qu'il a fait une ville totalement numérisée. Alors évidemment, l'émir qui n'avait pas de ces notions, il n'avait pas écouté ma conférence, et il a été séduit en se disant, oh, ça va être... Comme ça, ça va être la ville du futur. Mais du coup, c'est devenu une ville sèche, avec tout le sous-sol, avec des voitures radio-commandées, ce qui fait que personne n'y va jamais. Et c'est une ville qui peine un peu, mais c'est dommage. Et qui ne ressemble plus à ma dune, mais qui est une ville dans un carré. Alors, vous voyez, vous avez là, c'est difficile, la naissance d'une idée d'aller de rien à quelque chose et ensuite de le développer, c'est difficile. Et là, la ville existe maintenant, mais pas par moi. Donc, voilà quelques idées de cette ville. Alors, une ville nouvelle en Angola, donc ça, c'est un projet qui est vivant. J'ai fait la forme d'un cerveau, en fait, avec hémisphère droit, hémisphère gauche. Et donc, c'est une ville qui reprend les neurones et les synapses et qui joue avec cette idée-là. Et c'est une ville... dont j'essaye de maîtriser à la fois la densité, les énergies, les transports, l'âme et les espaces verts. Voilà la ville, vous voyez mon idée de cheminement, donc c'est bien une ville rayonnante. Ici, je vais vous montrer quelques vues sur d'autres architectures futuristes, et ensuite on passera aux questions. Donc là, je vais aller un petit peu vite et je reviendrai sur ce que vous souhaitez. Voilà, là aussi c'est une ville nouvelle, c'est la ville franco-chinoise de Taïdian. Ça s'écrit Kaidian, mais ça se prononce Taïdian. Et ça, c'est un des premiers bâtiments qui est le musée de l'urbanisme. Donc, on va commencer par l'urbanisme et le centre de congrès. À l'époque, c'était un lieu de culte, le premier bâtiment, mais là, c'est différent. Ici, la gare maritime de Shenzhen. Je suis parti de la vague des traves. C'est assez amusant. Parce que j'aime les formes géométriques, mais j'avais trouvé que la vague d'étrave a le même angle, quelle que soit la forme de la carène et quelle que soit la vitesse du bateau. Ce n'est pas très connu, je crois que c'est 43,7 degrés, quelque chose comme ça. Et donc je me suis amusé à faire un bâtiment en forme de vague d'étrave. Le programme disait plusieurs bâtiments, etc. Et j'ai pris le risque de faire tout dans le même bâtiment. On voit là une des premières esquisses, puis le bâtiment en construction, puis le bâtiment. Et le voilà, vous voyez Hong Kong au bout. Et donc, c'est un peu comme... C'est le mariage de l'aile et de la vague, comme Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer, et donc qui évoque le voyage. C'est un bâtiment qui fait à peu près 250 000 m2, je dis à peu près, car il y a une partie assez importante en sous-sol, dont un abri anti-atomique. Je vous le dis parce que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience en Europe et en France, mais en Chine, tous les bâtiments publics doivent avoir un abri anti-atomique. C'est comme ça. Nous vivons dans un monde plus bisounours. Les Chinois anticipent un éventuel conflit. Je le dis parce que c'est notable. Voilà une image donc aérienne. Alors, de là partent des bateaux qui vont à Hong Kong, à l'aéroport de Hong Kong, à Hong Kong, à Macao, Rivière des Perles, etc. Ici, j'ai mis un phare. C'est le phare qui guide, le marin en cas de difficulté et qui l'accueille. J'ai toujours été fasciné par les phares. Un jour, je me suis dit que j'en construirais un, et comme j'en ai pas construit, j'ai mis mon phare ici, en fait. Et en fait, il faut réaliser ses rêves d'enfant. Voilà. Et ben voilà, c'est la dernière image. J'ai essayé de pas trop en mettre. Donc, voilà. Quelques idées d'un architecte qui rêve un petit peu dans les étoiles et qui rêve de futur. Ben, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions...
Moi, j'ai le privilège de poser la première. Merci beaucoup. Et ce que tu as démontré finalement, c'est l'importance du... Alors, il y a le rôle de l'architecte, mais c'est celui du maître d'ouvrage. C'est-à-dire que le Futuroscope, c'est évidemment c'est ton œuvre, mais c'est parce qu'elle a été commandée par quelqu'un qui avait une vision, à savoir Monory. Et juste pour m'amuser, je peux comparer deux dames, la maire de Paris, Madame Hidalgo, puis la maire du 9e, qui est Madame Delphine Burkly. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y en a une qui a vraiment l'esprit de maître d'ouvrage, qui fait de son arrondissement, qui le rend vraiment une ville très attrayante, et puis une autre dame qui a une autre vision, que je ne me permettrai pas de critiquer, bien sûr, puisque je suis dans un... je suis l'État. Mais voilà, donc à savoir qu'effectivement, moi, tu as fait une belle démonstration du fait que une vie, enfin, la construction d'une ville, bon, il y a évidemment les gens qui vont y habiter, mais il y a les architectes, mais aussi ceux qui commandent. Et c'est... je pense que on devrait, enfin moi, mon, si j'aurais une idée, ça serait que tu enseignes un peu les maires, les gens qui ont ces responsabilités, puis que tu leur dis simplement ce que tu viens de nous dire. Je crois que ce serait bien utile. Voilà. Alors, maintenant, j'ai dit ma petite phrase.
C'est très finement observé. C'est très finement observé parce que, en effet, ce qui est fondamental, c'est un bon maître d'ouvrage. Et alors, il y a à la fois la ville, mais en architecture, par exemple, la première chose que je regarde quand je vais voir un maire ou un président d'une société, c'est sa cravate. Et si la couleur de sa cravate est assortie à sa chemise et à sa veste, je me suis dit, ça va bien le faire, on va faire un bon boulot. Mais s'il a des pois violets avec un mauve et un rose, là, aïe, 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 je pars en courant. Ah ben, c'est plus difficile. Je regarde les chaussures.
Oui, on est sans cravate.
Je regarde les chaussures. Ça s'appelle la godassologie. Et il faut regarder les chaussures. Si vous voulez connaître quelqu'un, vous regardez les chaussures. Et c'est, ça vous dit beaucoup de choses. Et que chacun regarde ses pieds.
Moi, j'ai honte.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est la vérité. On apprend beaucoup de choses. Et en effet, la manière dont un maître d'ouvrage va être solide, ne va pas changer d'avis, ne va pas écouter le dernier qui a parlé, va vous soutenir en cas de difficulté. Moi, par exemple, sur le Kinemax, le cristal avec le grand écran, à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 33 ou 35 ans quand on l'a fait, donc j'étais vraiment jeune architecte. Et puis, c'était la société canadienne IMAX qui faisait. Et moi, c'était le plus grand écran à l'époque. Il faisait 602 mètres carrés. Je m'en souviens parce que c'était la cylindrée de ma deux chevaux. Et en fait, c'était la taille d'un terrain de tennis. Et mon idée était que l'ensemble de l'écran devait se soulever parce qu'après le spectacle, je voulais qu'on passe à travers l'image, un peu comme d'aller sur scène après un spectacle. Et donc, le challenge, c'était de faire se soulever ce grand écran. Donc, je dessine le Kinemax comme ça, c'est pour ça qu'il est tout en hauteur, pour que l'écran puisse se soulever. Et un jour, le président m'appelle en disant, le président Monory m'appelle en me disant, je reçois des lettres terribles de la société canadienne qui dit que l'architecte est fou, que ça ne marchera jamais, que c'est quelque chose de très compliqué, que l'écran va se vriller, que l'humidité, le truc. Enfin, est-ce que vous êtes sûr de vous? Alors, j'ai dit oui, il dit, venez me voir. Alors, je vais au Sénat, il était président du Sénat. Denis, vous êtes sûr de votre coup? J'ai dit oui, je vous soutiens, foncez. Et donc, il avait ce courage de faire confiance à un homme, en fait. C'est parce qu'il pouvait se planter. C'était le début, c'était le premier grand cinéma, un grand spectacle. Et en effet, ce que n'a pas fait l'émir d'Abu Dhabi. L'émir d'Abu Dhabi, il s'est retrouvé, il m'aimait bien, Sincèrement, il me disait, parce qu'à l'époque, il avait dit, il avait ouvert son portefeuille, il avait ouvert les études, il avait dit, c'est cet architecte que je veux, c'est ce projet-là. Il avait dit, il avait reçu sous sa tente, c'était la chasse aux faucons. Mais ceci dit, j'aurais dû me méfier, parce que dans la chasse aux faucons, je vais vous dire, hein, ça va me changer un peu, mais à un moment, je vais un peu derrière la... Parce que son faucon, il n'attrapait pas les pigeons. Alors, il lâchait un pigeon s'en allait, le faucon, il le ratait. Et puis, je vais derrière la Range Rover, là, et puis je m'aperçois qu'il y avait un petit Pakistanais qui était en train de plumer les ailes du prochain pigeon pour qu'il vole moins vite, pour que le faucon l'attrape. Et il m'a fait le coup du faucon, j'aurais dû me méfier. Les Anglais avaient des moyens de pression, notamment financiers, et du coup, il a écouté le dernier qui a parlé. Jamais le président Monory n'aurait fait ça. Jamais, jamais. C'était pas un chef. C'était pas un chef. Un chef, ça tient la barre. Donc, tout à fait, il faut suivre le... c'est très important, le tandem. Mais ce serait vrai pour un scientifique. C'est vrai pour un chercheur. Je suis persuadé, pour un artiste, pour un peintre, pour un sculpteur, pour tout ce qu'on veut, c'est vrai même pour un coureur automobile qui ferait des premières erreurs ou qui ferait un essai. Il faut choisir des hommes et ensuite il faut leur faire confiance, il faut les soutenir. Et un vrai chef soutient, en fait.
Alors, qui... Sébastien, parle fort. Hein.
Une petite question sur la gare de Shenzhen.
Pardon, toi.
Oui.
Est-ce que vous anticipiez déjà à l'époque la montée des eaux? Est-ce que là-dessus vous dites, il va falloir que je mette une protection, une baie, une évacuation, je ne sais pas quelle possibilité, parce que...
Alors, ça a été la... Alors, on a anticipé, mais l'idée m'était venue, en fait, je parlais tout à l'heure de l'abri antiatomique qui était en sous-sol, et je ne voulais pas qu'il puisse se fissurer et que les gens soient inondés. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai surélevé, en fait. Et c'est de manière indirecte que ça répond à votre question. Je n'ai pas eu le souci, je l'avoue humblement, de la montée des eaux. Et c'est une excellente remarque. Hein. On devrait avoir dans les constructions. J'ai eu le souci des tempêtes, j'ai eu le souci de toutes les contraintes traditionnelles, mais on a pris une réserve de hauteur due à beaucoup de choses, mais pas spécifiquement à la montée des eaux.
Et donc, je disais, c'est vraiment la croisée des chemins, la croisée des caravanes dans le sud, ou la croisée des chemins des nomades dans les steppes, etc. C'est ça qui fait que certaines villes commencent à germer, à naître et se construire, ou se constituer. À notre époque, on construit des villes dans des zones qui ne sont peut-être pas de façon artificielle, avec des golfs dans le désert, avec des stades réfrigérés, avec des... Et puis, du coup, la question que je me pose, est-ce que vous pensez-vous de cette future ville en Arabie Saoudite qui fait 170 km de long et 200 mètres de large et avec toutes ces concentrations, cette concentration? Là, il n'y a pas d'intérêt de circulation des hommes, des intérêts ou intérêts économiques ou un fleuve, comme vous disiez tout à l'heure, ou une source ou un oasis.
Ah, mais c'est vraiment une bonne question. Et avant de répondre sur l'Arabie Saoudite, je voudrais vous dire que quand, par exemple, De Gaulle a demandé à Paul de Louvrier, c'était au moment de la fin de la guerre d'Algérie, et il fallait rapatrier les pieds noirs, on avait besoin de beaucoup de construction, il a fait des villes artificielles qui n'ont jamais vraiment pris C'est-à-dire que c'est péniblement, disons que maintenant on y arrive péniblement, parce que les chemins se constituent après coup, si je peux dire. Donc ça s'est fait dans la douleur, elle a souffert, cette naissance de ville. Donc tout ce qui est artificiel a beaucoup de mal à démarrer. Je pense que cette ville d'Arabie Saoudite, tout en longueur, est un immense risque. Je leur souhaite de la terminer avant d'avoir des problèmes de fin de pétrole. Mais même c'est comme Dubaï, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils font toutes les folies, mais attention, attention, quand ils n'auront plus les mêmes moyens, ils vont se retrouver avec une ville qui va être ingérable. C'est des villes qui vont être abandonnées très vite, ça. Très, très vite. Ça va mal se terminer. D'autant plus que la chaleur, le soleil, le vent et le sable, c'est très, très mauvais pour beaucoup de raisons. Ça colmate tout, ça abîme tout, c'est en entretien. C'est des villes qui vont être... Là, je pense aux villes artificielles chinoises, par exemple, où on construit ce que j'appelle les morceaux de sucre, comme ça, qui sont plus ou moins inhabités. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas d'équipement... Elles sont vides, les tours. Ça ne marche pas, en fait. On ne peut pas décréter comme ça des mètres carrés de construction sans qu'il y ait une âme derrière. C'est très important, l'âme des choses. Le sens, donner du sens aux choses. Quoi.
Je vais faire une petite remarque. Là, on a la chance d'avoir dans cette salle un grand diplomate italien. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'estime que l'Italie, c'est peut-être le pays qui a les plus belles villes.
Ah oui.
Voulez-vous commenter?
Déjà, merci pour cette remarque. Mais moi, j'ai plutôt une question pour... Donc, je laisse les débats sur l'Italie, la France et les plus belles villes au monde. Mais plutôt une question sur, plutôt philosophique qui est à la base du début de votre exposition, les émotions. Vous êtes parti de là, vous êtes parti de l'importance des émotions qu'une ville doit susciter. Et alors je me demande si, d'après vous, les émotions changent avec le temps. Parce qu'il y a des émotions de base, je pense qu'on va toujours retrouver, et des émotions qui, à faire et à mesure que la société évolue, change. Donc, vous avez évoqué les numériques comme un problème finalement pour une ville. Mais est-ce que un architecte comme vous doit prendre en compte les changements possibles des émotions et les ressentis pour projeter une ville dans l'avenir, dans le futur?
Ah oui, c'est une bonne question parce que. Ça touche à la résilience et à la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que je pense que les hommes, même du néolithique, avaient pratiquement les mêmes émotions que nous, de manière basique. Je pense que nous avons tous un solfège identique dans la tête. Les hommes se ressemblent incroyablement. Quand je vois les peintures rupestres dans le paléolithique, c'est incroyable à quel point finalement on réagit, on a des sensibilités qui viennent du fond des âges identiques. Et il est aussi probable que nous soyons dans une zone asymptotique de modification de nos partitions. Le solfège reste le même, parce qu'une fausse note sera toujours une fausse note, mais les partitions deviennent aiguës, deviennent... On est dans du rap, là. Ça devient compliqué. Il faut qu'une ville soit... Je pense beaucoup aux villes italiennes qui ont le même genre de problème, c'est-à-dire une base historique forte met le devoir de s'adapter. Moi, je trouve qu'elles le font très bien. L'adaptation, heureusement, est une adaptation numérique, donc invisible, en fait. C'est une adaptation qui n'est pas structurelle. Heureusement, ça nous sauve, parce que si c'était une adaptation plus lourde, ça ferait des changements douloureux. Les villes italiennes et françaises, en fait, tous ceux qui ont des cœurs de ville ancrés dans l'histoire, ont la chance d'avoir ces éléments de stabilité. Mais ce qui se passe autour, ça...
Je vous fais un petit exemple là-dessus. Moi, je viens de Florence, qui est...
Firenze.
Belle ville. Et donc, il y a le tribunal de Florence qui a été refait il y a, moi, je pense, une dizaine d'années, peut-être 15 années. Et avant, c'était dans un bâtiment baroque. Il n'y a pas beaucoup de baroque à Florence, mais là, le tribunal était dans un bâtiment baroque magnifique. Et ils ont fait un tribunal assez moderne, assez futuriste. Certaines de vos images m'ont fait penser à ça, avec des formes assez aiguës, assez particulières. Et il y a eu presque une révolution à Florence contre le tribunal. Donc, pour vous dire que les émotions étaient là, mais ce n'était pas nécessairement des émotions positives.
Ah oui.
Et là, il est là, il fait partie de la ville, mais ouais, on n'a pas trop envie de le regarder, effectivement.
C'est le problème du brutalisme. Vous savez, quand on demandait à Mozart ce qu'il faisait, il répondait « je cherche deux notes qui s'aiment ». Eh bien, le travail d'un architecte, c'est de trouver une maison qui aime son jardin, un immeuble qui aime sa rue, ou un tribunal qui aime son environnement. Et peut-être que l'idée de faire quelque chose de moderne était bonne, mais peut-être que c'est mal fait. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme vous prenez une toile, des pots de peinture, du rouge, du vert, du jaune, vous donnez ça à quelqu'un qui n'a pas de talent, vous allez dire « j'aime pas la peinture moderne ». Ah oui, mais après, c'est peut-être pas un bon peintre aussi. Et si vous donnez ça à quelqu'un qui a un talent immense, elle est adorée. Donc, je pense que c'est une question. Il faut bien choisir l'archi, quoi. Il faut la bonne œuvre au bon endroit.
Est-ce que je peux faire une petite remarque sur l'obsolescence?
Oui.
Alors, juste, comme vous le savez, j'ai travaillé pendant un moment au Palais de la Découverte. Et au Palais de la Découverte, il y a des différentes expériences. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des expériences qui datent du XVIIIe siècle, comme l'électrostatique, ou du XIXe, comme l'électromagnétisme. Et ces expériences, magnifiques, elles attirent du monde, etc. Et puis, dans les années 80, lorsqu'il y avait Jean Burger, qui était donc le président du Palais de la Découverte, il a décidé de faire... un lieu, enfin, de reproduire un cabinet médical, enfin l'homme. Alors, il se trouve que je travaillais donc dans cet endroit à peu près 10 ans après. C'était épouvantable, à savoir que, je veux dire, on n'aurait pas été dans le cabinet d'un médecin avec ses équipements. Je veux dire, c'était devenu ringard en une dizaine d'années. Ce que je veux simplement dire, c'est que lorsqu'un architecte ou n'importe qui, un créateur, il doit chercher à trouver des choses qui vont durer. Et par exemple, bon, ben, l'électrostatique, ça a été inventé par Franklin au 18e. On a une machine au Palais de la Découverte, c'est magnifique, il y a des centaines de visiteurs. Et puis vous allez donc dans un autre coin où il y a cette espèce de chose. Enfin, j'espère qu'ils l'ont. Qui l'ont bazardé, mais c'était épouvantable. C'est simplement que je veux dire que, à mon avis, le rôle d'un architecte, c'est de trouver...
Éviter l'obsolescence.
C'est des choses pérennes.
Oui, ça me rappelle à Epcot. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que Epcot. Epcot, c'est une partie futuriste de Disney en Floride. Et Epcot, c'était Walt Disney qui voulait faire la ville du futur. Il se retourne dans sa tombe, à mon avis, quand il voit ce qui s'est passé, parce que c'est devenu une sorte de parc d'attractions. Mais Epcot, ça veut dire Experimental Prototype of Community of Tomorrow. Et il y a là le pavillon du futur. Alors moi, je me précipite dans le pavillon du futur. Je voulais absolument voir ce que les Américains, donc, toute l'équipe prospective de Disney avait imaginé sur le pavillon du futur. Et alors, en effet, on embarquait sur une espèce de wagonnet qui promène. Eh bien, ils commencent par l'homme préhistorique et ils ont montré ce qui était une idée. Et ils ont montré le développement de l'habitat, des technologies, etc. Et puis, c'est seulement la dernière image où on avait un truc futuriste, un mec dans un scaphandre avec une antenne sur la tête, etc. Complètement raté. Et le pavillon du futur, en fait, ils n'ont pas réussi à montrer le futur. C'est extrêmement difficile de montrer le futur. C'est la difficulté que j'ai eue avec le Futuroscope. C'est qu'il y a 40 ans, on a dit, je me suis dit, il faut montrer le futur. Et c'est pour ça que j'ai complètement cassé les codes. Parce que de montrer le passé, c'est hyper facile. De montrer le présent, ça passe. Mais de montrer le futur, il y a le risque d'obsolescence dont tu parles. Et il fallait casser les codes. Très difficile. L'obsolescence nous guette. Et alors, tout ce qui est figuratif est dangereux, donc c'est pour ça que j'avais pris les formes géométriques. C'est indémodable, enfin normalement, c'est indémodable.
Oui, j'avais une question. Deux questions. Est-ce que vous pensez que le concept de ville va survivre à l'urbanisation croissante, notamment dans les pays en développement, et je pense particulièrement à l'Afrique, qui reste pauvre? Les urbanistes dans le domaine du développement durable pensent qu'il faudrait essayer de faire la promotion, mais ils n'arrivent pas à le faire, des villes moyennes en Afrique pour lutter contre l'emprise qu'il va y avoir sur les littoraux notamment. J'ai une question un petit peu plus malicieuse. Est-ce que vous avez une fois refusé de construire une ville parce qu'il n'y avait pas de chemin? Et puis je voulais quand même vous consoler. Pierre Cardin a essayé pendant au moins 5 ans, parce que je suivais ce projet par des amis, on était un peu ensemble là-dessus, de construire le phare d'Alexandrie. Et en dépit de sa notoriété dans le monde arabe, il n'a jamais réussi à trouver les financements. Voilà. Deux questions.
Tout à fait.
L'urbanisation croissante et puis la petite question malicieuse.
Tout à fait. Alors, en ce qui concerne l'urbanisation croissante, je pense que presque tous les pays maintenant, presque tous les décideurs ont conscience qu'il faut développer des villages ou des villes moyennes plus que de continuer à développer la capitale ou les grandes villes. Je pense que ça rentre dans les mœurs, cette idée-là. En tout cas, c'est le cas. Parce que c'est la ville qui se développe le plus, enfin le pays, c'est la Chine. Ils essayent de développer les villes moyennes ou les petites villes. En Afrique, c'est impératif de le faire parce que sinon, là, les pauvres, ils vont étouffer dans des villes qui n'en finissent pas de s'agglutiner. La question, c'est l'attractivité d'une ville. Une ville est de plus. Plus elle est dense, plus elle est grande, plus elle est attractive, en fait. Parce qu'on a envie de vivre ensemble, on a besoin de vivre ensemble. C'est bizarre. Ça rend malheureux, mais c'est bizarre. Mais la ville attire. C'est comme ça. Sinon, sur votre question malicieuse, la réponse est absolument oui. Absolument oui. Notamment à Xi'an. Pardon ? Xi'an, oui. Oui, tout à fait. Ils m'ont demandé de m'installer, de travailler, etc. Et j'ai eu le sentiment, arrivé là à Shongan, au bout de deux jours, je suis devenu d'ailleurs neurasthénique moi-même, je me suis dit, c'est pas possible, que je ne peux pas développer quelque chose comme ça. Et je suis parti. Ouais. Donc, oui.
D'autres questions ?
Juste une dernière question, mais j'arrête après. Non, c'est juste la question sur le réchauffement climatique et la vision que vous avez de la ville avec le réchauffement climatique, notamment une ville comme Paris. Est-ce que Paris va être adapté ou est-ce que Paris va être adaptable ? Est-ce qu'on va pouvoir modifier les façades des immeubles ? Est-ce qu'on va pouvoir mettre, je ne sais pas, enfin, c'est une interrogation.
Ah oui, bon sujet. Je vais faire une réponse un petit peu à côté, mais qui n'est pas tant que ça, en tout cas dans ma tête. Churchill disait « Paris meurt de sa beauté ». Donc c'est vrai pour son développement, mais c'est aussi vrai, ça rend très difficile l'adaptation des impératifs et là il faut être vraiment vigilant de ne pas tout confondre. Il ne faut pas confondre, on ne peut pas transformer une ville comme Paris, c'est comme de prendre une haridelle et puis de vouloir en faire une Maserati. On ne peut pas transformer Paris en ville écologique sauf à le dénaturer complètement. En revanche, il y a sûrement de multiples sources d'amélioration. Simplement, il ne faut pas le faire au détriment. On ne va pas doubler toutes les façades. On va pas. Enfin, ce serait scandaleux. Je pense que la solution, c'est de chauffer moins. Isolé par l'intérieur. Mais là, il ne faut pas massacrer Paris.
Bien. Je crois qu'on arrive.
Il y a une question d'un internaute, pardon, oui. Qui se demandait si vous aviez étudié l'organisation des villes mayas.
Ah, mais c'est amusant parce que j'ai... Alors, maya, non, mais à Mixtec, à Oaxaca, j'avais été missionné par la DATAR c'était des villes très denses. C'était des villes et villages très denses, semi-rurales. Mais les villes ne s'utilisaient pas de la même manière. Les gens dormaient tous. C'était très différent. Nous avons des cellules. En fait, nous concevons les villes comme des juxtapositions de cellules autonomes, ce qui n'était pas le cas des nomades quand ils ont commencé la ville. Et les villes mayas, c'était à la fois dense, mais avec des salles communes, si je peux dire. Et c'était semi-rural, en fait. Un rapport avec l'extérieur très... beaucoup plus poreux que nous.
Il y a d'autres questions ? Eh bien, écoutez, merci infiniment. Écoute, Denis, merci pour ça.
Avec plaisir.
La prochaine. Il y a donc vous savez, le troisième mardi de chaque mois, il y a. Un autre sujet, ce sera donc un regard sur l'organisation de la recherche. Voilà. Bonne soirée à tous.
Merci de m'avoir écouté.